Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence, une émission au cours de laquelle nous allons aborder de nombreux sujets importants concernant l'économie africaine. Et nous irons d'abord à Marrakech où s'est tenue une réunion de haut niveau du comité chargé du projet du gazoduc Nigeria-Maroc. C'était en marge de la troisième édition du sommet africain du pétrole et du gaz. Nous en parlons dans quelques instants. Nous ferons également un tour à Bruxelles où l'Union européenne faisait la promotion de son initiative Global Gateway, censée concurrencer l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Le professeur Najib Cherfaoui, expert maritime, nous dira de ce dont il s'agit. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA, fête ses 30 ans d'existence. Il y a de cela quelques années, le Maroc voulait adhérer à cette organisation. Que représente aujourd'hui l'OADA et son utilité? Notre invité répondra à cette question. On l'entendra au cours de cette émission. Enfin, notre destination éco nous mène au Sénégal. Comment va l'économie sénégalaise à environ quelques 4 mois avant la présidentielle? Moustapha El Bouri nous en donnera des détails et il nous présentera aussi les opportunités d'investissement dans cette économie ouest-africaine. Tels sont les principaux sujets de coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction Marrakech, la ville ocre où s'est tenue cette semaine une réunion de haut niveau du comité chargé du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. C'était en marge de la troisième édition du sommet africain du pétrole et du gaz. La rencontre a réuni des représentants des pays traversés par ce gazoduc, toujours en projet. Cette réunion a permis de mesurer son évolution. Les pays concernés réaffirment leur engagement à le concrétiser. Sur l'évolution de ce grand projet depuis ses débuts, je vous propose d'écouter Mohamed Hamidouche. Il est ancien haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement et qui suit particulièrement l'évolution de ce dossier. Je vous propose de l'écouter.
Permettez-moi de rappeler à l'attention de vos auditeurs que le projet gazoduc Maroc-Nigeria, en anglais Morocco-Nigeria Gas Pipeline, reliera les champs gaziers du Nigeria au Maroc sur une longueur estimée à 5 660 km. Le coût du projet est estimé à 25 milliards de dollars des États-Unis. Il est conforme à l'esprit de la vision de l'Union africaine 2063 qui s'intitule « L'Afrique que nous voulons » en matière d'intégration économique régionale continentale et au mandat de l'esprit qui prévaut au niveau du NEPAD, l'agence de l'Union africaine dédiée au développement économique en Afrique qu'on appelle le nouveau partenariat pour le développement économique en Afrique. À cet effet, une lettre d'entente a été signée le 16 décembre 2016 par les directeurs généraux de l'Office national des hydrocarbures ONIM pour le Maroc et la Nigerian National Petroleum Corporation NNPC pour le Nigeria en présence des deux chefs d'État du Maroc et du Nigeria et les membres de leurs gouvernements respectifs. Dans la même veine, Itmar Capital, le fonds souverain marocain, et le Nigeria Sovereign Investment Authority, fonds souverain du Nigeria, ont signé un Strategic Partnership Agreement, SPA, et un Memorandum of Understanding pour accompagner la réalisation de ce méga projet de gazoduc en jouant le rôle de catalyseur en vue de la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ce projet au niveau continental et international. Depuis 2016, les autorités des deux pays travaillent la main dans la main pour la réalisation des études de faisabilité et d'impact environnemental du projet. La première phase des études a été achevée en 2020. La première phase des études a été financée par le Maroc et le Nigeria, tandis que la seconde étude est financée à hauteur de 50% par le Maroc et le Nigeria d'une part, et le reliquat de 50% est financé conjointement par la Banque islamique de développement et le fonds de l'OPEP OFID d'autre part. Cet important projet va être relié aux projets existants en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du West Africa Gas Pipeline qui est déjà opérationnel entre le Nigeria, le Ghana, le Bénin et le Togo. Les récentes découvertes de gaz en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie verront la construction d'autres gazoducs qui seront certainement raccordés au méga-projet Maroc-Nigeria pour l'exportation du gaz naturel en Europe, dont les besoins en gaz font l'objet en ce moment de grandes tractations géopolitiques entre les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'OTAN et la Russie dans le cadre de la tension en cours en Ukraine.
Zoom Express.
Bruxelles a accueilli au cours de cette semaine de nombreux chefs d'État et de gouvernement du monde. Une bonne partie d'entre eux venaient du continent, à l'image du chef du gouvernement marocain et de plusieurs dirigeants africains. Bruxelles a accueilli au cours de cette semaine de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Une bonne partie d'entre eux venaient du continent, à l'image du chef du gouvernement marocain et de plusieurs dirigeants africains. Dans la capitale européenne, il était question de concrétiser le gigantesque projet européen dit Global Gateway, une proposition européenne discutée depuis environ 2 ans. De quoi s'agit-il? On en parle avec l'expert maritime, le professeur Najib Cherfaoui, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour, professeur Cherfaoui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit quand on parle du Global Gateway?
Bonjour, monsieur Baldé.
Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'initiative européenne Global Gateway?
L'initiative européenne qui vient d'être annoncée, c'est une réaction. Ce n'est pas une initiative, c'est une réaction à l'initiative chinoise. Donc auparavant, l'Europe, via les pays européens, exerçaient leurs activités de manière commune et aussi de manière, disons, autonome, de manière indépendante. Et par rapport à l'initiative chinoise, il a été décidé d'adopter un comportement commun pour pouvoir faire face à la montée en puissance de cette stratégie dite route de la soie. Voilà en quoi consiste la réaction européenne à l'initiative chinoise.
Alors, vous dites que c'est une réaction, mais concrètement, que propose-t-elle? Quels sont ses éléments?
Les éléments, c'est de préserver l'économie des pays européens de manière unifiée. L'idée, c'est d'équiper le monde, de participer à l'équipement du monde pour rendre l'accès de l'Europe au monde beaucoup plus fluide. C'est une question de fluidité. J'insiste sur le mot, hein. C'est une question de fluidité. Donc il s'agit, là où dans le monde, il y a une difficulté d'accès à un produit européen ou, inversement, une difficulté d'accès d'un pays de l'extérieur vers l'Europe, il s'agit d'éliminer cette obstruction. Voilà l'objectif de l'Union européenne pour contrebalancer, disons, si on peut utiliser ce terme, l'initiative chinoise.
À ce propos, je rappelle que un budget d'environ 300 milliards d'euros est prévu pour les 3 prochaines années en termes donc d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures. Alors, professeur, quelle est la différence entre le Global Gateway et la nouvelle route de la soie?
La nouvelle route de la soie, c'est une initiative, c'est-à-dire c'est une stratégie qui était réfléchie. Il s'agissait essentiellement de désenclaver la Chine continentale, les provinces continentales de la Chine, et de dynamiser leur économie. Donc, on a fait une route de la soie terrestre. Mais le plus important, c'est l'autre composante, c'est la partie maritime. laquelle partie maritime a pour objectif de relier la Chine à l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'infrastructures. Autrement, tout le reste du monde est actuellement très très bien équipé. Là, en Afrique, il y a le problème des corridors. Donc il s'agit de rendre fluides les fameux corridors, et c'est là où la Chine s'est placée. Alors, pour contrebalancer cette fluidité qui irait dans un sens unique, l'Europe a créé un deuxième sens. Donc, elle réagit en participant, elle aussi, à rendre fluide ce qui peut l'être du point de vue de l'Europe. Voilà.
Alors, comment le Maroc et ses voisins du continent peuvent en tirer profit?
Donc, le Maroc étant au cœur, vous avez compris, hein, l'enjeu, c'est l'Afrique. On parle, mais en fait, c'est l'Afrique. Hein. Ça n'a pas été dit. Personne n'a dit l'Afrique en clair. Hein. Mais je vous informe, qu'il s'agit de l'Afrique et uniquement de l'Afrique. Mis à part le fait qu'il faut désenclaver les provinces continentales de la Chine. Donc c'est de l'Afrique qu'il s'agit, et le Maroc, c'est le corridor nord de l'Afrique. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que le Maroc qui peut jouer ce rôle. Il y a les corridors est, ouest et sud, ceux-là vont être desservis, mais le corridor nord, c'est le corridor par lequel l'Europe peut accéder le plus directement possible à l'Afrique de l'Ouest. Et en ce sens, le Maroc est donc tout à fait bien placé. Disons déjà, il est incontournable. On ne peut pas faire autrement. Voilà. L'Europe ne peut pas faire autrement, y compris la Chine, parce qu'elle sera obligée aussi d'aller en Afrique de l'Ouest et passer par le Maroc nécessairement, disons, pour ne pas dire obligatoirement.
Et pour les pays africains, quels autres pays risquent ou sont plutôt bien placés pour en profiter?
Alors, tous les pays africains devraient bénéficier. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir une offre équilibrée. C'est-à-dire, le fait que l'Europe se positionne par rapport à l'Afrique, déjà, ça permet à la Chine et à l'Afrique et aux Européens, donc on aura un choix. C'est-à-dire, il y aura des offres, il y aura des réponses, et je trouve que le commerce sera beaucoup plus équilibré, et ce sera à l'avantage de l'Afrique, va effectivement subir un boom. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà 1,5 milliard d'habitants, donc l'Afrique est extrêmement riche, hein. Il faut rester sur ça, hein. Elle est extrêmement riche, et c'est cette richesse-là qui aujourd'hui fait l'objet de cette montée en puissance, et l'Afrique aussi, elle va tirer avantage, puisque tout le monde, les Africains ont compris l'importance des richesses entre leurs mains, et de l'autre côté, on a besoin de cette richesse, donc je trouve que l'avenir de l'Afrique est un avenir, c'est un âge d'or. L'Afrique va traverser un âge d'or dans les années qui viennent, à un horizon très très rapproché, et y compris le Maroc, évidemment.
Alors, une dernière question assez rapidement, professeur Najib Cherfaoui. Quand l'Afrique va profiter de ces initiatives, ce sera en termes de construction de ports ou bien de chemins de fer, de corridors routiers? Quel type de retombées devraient être donc ces infrastructures?
Ce seront les corridors, hein. Ce sont les corridors, c'est-à-dire terrestres, ce qui veut dire routiers et ferroviaires. Portuaires, ça va, l'infrastructure. Le Maroc a une offre portuaire qui est exemplaire. Hein. Le Maroc est parfaitement, est en pole position, hein, par rapport à tout ça. Mais le Maroc, ce qui va attirer le plus profit, c'est enfin la flotte stratégique dont le Maroc a besoin. À cette occasion, pourra être adossée à ce développement de la composante maritime qui passera forcément par le Maroc. Donc ce sont les composantes maritimes qui vont le plus bénéficier, y compris que j'appellerais infrastructure. Hein, les navires, je les considère comme des infrastructures. Mmh. Et à cela, nous avons donc les fameux corridors ouest-est qu'il s'agit de relier de manière horizontale. Voilà.
Merci beaucoup, professeur Najib Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes expert portuaire et maritime.
Honneur de vous avoir, monsieur Baldé.
Honneur partagé.
Coémergence, l'invité.
L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA, fête ses 30 ans d'existence, il y a de cela quelques années. Le Maroc voulait y adhérer. Que représente aujourd'hui l'OADA et quelle est son utilité? Nous en parlons avec le juriste et avocat d'affaires, Ali Bougrine. Bonjour à vous, Ali Bougrine. Tout d'abord, comment évolue le droit des affaires en Afrique?
L'évolution du droit des affaires en Afrique est intimement corrélée à l'évolution des investissements économiques et aux échanges commerciaux en Afrique. La forte croissance économique du continent, qui se matérialise notamment par une multiplication de projets en matière d'infrastructures, en matière financière et dans le secteur des services, conduit à une demande naturelle et croissante des investisseurs à plus de sécurité juridique. On constate que sur le continent, la tendance est au perfectionnement du cadre normatif. On peut louer certaines initiatives dans certains pays d'Afrique pour accompagner ce mouvement. Au Maroc, on peut citer les réformes en matière d'arbitrage avec l'institution prochaine d'un code de l'arbitrage, l'instauration de la SAS pour donner aux investisseurs financiers un véhicule plus adapté dans le domaine du private equity. On peut également citer au niveau du droit OADA des réformes en cours qui vont avoir un impact direct sur l'économie avec notamment la création d'un registre du commerce et du crédit immobilier sur toute la zone OADA qui permettra de connaître sur toute la zone la situation des entreprises établies dans les 17 États membres. Et donc, on peut aussi citer une réforme en cours sur la simplification des procédures de recouvrement et des voies d'exécution au niveau du droit OADA. Toutes ces initiatives, en réalité, vont vers la tendance que je citais à titre introductif, qui est le perfectionnement du droit des affaires en Afrique et en vue d'apporter une sécurité juridique plus forte aux investisseurs.
À quel type de différences juridiques les entreprises marocaines sont confrontées dans leur pays d'implantation sur le continent ?
Le droit marocain est avant tout un droit local qui se différencie des systèmes juridiques mis en place en Afrique francophone ou anglophone. On peut néanmoins constater une forme de similarité entre les systèmes juridiques des pays composant la zone de l'Afrique francophone, ces derniers étant tous d'inspiration civiliste. Il n'en reste pas moins que chaque pays a des spécificités locales qui impactent directement les investissements des entreprises marocaines. Les processus de création des sociétés sont différents. La réglementation des changes est différente de celle que connaissent les entreprises marocaines dans leur juridiction. Le droit social, le droit fiscal comportent des spécificités locales et celles-ci impactent directement l'activité quotidienne des entreprises. Dès lors, les entreprises marocaines, lorsqu'elles s'implantent sur le continent africain, en dehors du Maroc, doivent appréhender de manière claire toutes les contraintes juridiques et réglementaires liées à leur projet d'investissement.
Alors, Ali Bougrine, pensez-vous que le droit marocain devrait davantage se rapprocher du droit OADA afin de faciliter les activités des entreprises marocaines installées sur le continent? D'ailleurs, quand je parle d'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qui regroupe 17 pays, dont la plupart où sont implantées les entreprises marocaines.
L'adhésion du Maroc à l'OADA est une question qui a fait beaucoup couler d'encre et qui est toujours une question d'actualité. À titre liminaire, il est important de préciser qu'il est beaucoup plus facile pour le Maroc d'adhérer à l'OADA. En effet, l'article 53 du traité de création de l'OADA dispose que le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union africaine et non signataire du traité. Or, depuis janvier 2017, le Maroc est redevenu membre de l'Union africaine et donc de ce fait disposera d'une facilité d'adhésion au traité OADA s'il devait opter pour cette décision. Pas moins que l'adhésion du Maroc à l'OADA nécessite la résolution de certains obstacles juridiques. Tout d'abord, il faudrait accepter d'abandonner une partie de notre souveraineté juridique et soumettre les juridictions nationale marocaine à la cassation au niveau des organes de l'OADA. Il faudrait également soit changer le traité de l'OADA ou abandonner le recours à la langue arabe comme une règle, la langue officielle du contentieux. En effet, la langue arabe n'est pas à ce jour reconnue comme une des langues officielles par le traité OADA. Il conviendrait également d'harmoniser les jurisprudences sur certaines questions critiques et qui intéressent les investisseurs entre les juridictions marocaines et les juridictions relevant de la compétence OADA pour ne pas créer de conflits de position et justement créer une insécurité juridique pour les investisseurs. Nonobstant ces difficultés qui ne sont pas insurmontables, on peut constater à la lecture des déclarations récentes des représentants des organes du secrétariat permanent de l'OADA que l'adhésion du Maroc est vue par les États signataires du traité de manière très favorable. L'Aaba est aujourd'hui dans le camp du Maroc qui devra anticiper et faire une analyse avantage-inconvénient d'une telle adhésion au traité.
Merci Ali Bougrine. Je rappelle que vous dirigez le cabinet UGGC Africa. Vous êtes spécialisé dans le conseil juridique et le droit des affaires.
Destination Écho.
Direction le Sénégal. Comment se porte l'économie sénégalaise et quels sont ses principaux atouts? Écoutons cette présentation de l'économie sénégalaise avec Moustapha El Bouri. Il est le directeur général du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé sur les investissements et les implantations des entreprises en Afrique.
Le Sénégal est un pays qui est situé à la pointe la plus occidentale du continent africain, notre continent. Il est également au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques, ce qui lui donne une position vraiment très très stratégique géographiquement. Et il constitue de ce fait un important carrefour en fait, des grandes routes maritimes et des grandes routes aériennes également. Le Sénégal est un pays qui est très très proche du Royaume du Maroc. Il représente en termes de population et de superficie environ la moitié du Maroc. Donc il y a environ 16 millions d'habitants pour une superficie d'environ 200 000 m². En termes d'économie, le Sénégal est assez bien placé. Il est considéré comme étant la deuxième économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Et également, il se positionne à la quatrième place de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc, il occupe en fait une place économique importante au sein de notre continent.
Une économie qui ne manque pas d'atouts malgré l'impact de la crise du COVID-19, des atouts que nous présente Moustapha El Bouri, le directeur général du cabinet Best Afrique, qui revient aussi sur les opportunités de développement de la relation entre le Maroc et le Sénégal.
Concernant les atouts du Sénégal, bon, ils sont assez nombreux, je vais vous en citer quelques-uns. L'un des plus importants pour moi, c'est une population qui est très très jeune. En effet, près de 50% de la population a la moins de 20 ans. Donc à ceci s'ajoutent des infrastructures de transport et télécommunications qui sont de très très bonne qualité. Et en plus de ça, qui sont en constant développement. Récemment, une ligne de TER a été lancée. Donc ce qui va vraiment améliorer la mobilité intérieure du Sénégal. Il y a en effet, un environnement favorable aux affaires. Les investisseurs, je pense, qui peuvent vraiment s'appuyer sur des structures d'appui et de promotion performantes, appuyées également par des services bancaires et financiers de première ou de classe mondiale, ce qui est très, très important. L'économie sénégalaise, elle repose principalement sur le secteur de l'agriculture, qui occupe un peu plus de 60% de la population active. Donc, ce qui est très important, c'est une part importante de l'économie sénégalaise. À ceci s'ajoutent de nombreux autres secteurs, pour en citer quelques-uns, les mines, le pétrole et le gaz, les produits de la mer, la santé ou encore le secteur des infrastructures de la construction. Tous ces secteurs réunis offrent de multiples opportunités d'investissement qui s'avèrent être très 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 intéressantes. Si je devais citer quelques cultures de rente, les deux qui me viennent à l'esprit, qui sont d'après moi les plus importantes au Sénégal, c'est les cultures du coton et de l'arachide. En effet, le coton du Sénégal est reconnu comme étant un produit d'excellente qualité. Il a une renommée internationale. En ce qui concerne l'arachide, le Sénégal est le troisième producteur d'arachide en Afrique. Il produit un peu plus d'1,5 million de tonnes, dont la moitié est exportée. Donc une grosse partie part à l'export. Le Sénégal est également très très bien positionné dans la production de fruits et légumes, comme les mangues par exemple, le melon, la pastèque, l'oignon ou encore la tomate, pour en citer quelques-uns. En ce qui concerne les relations sénégalo-marocaines, c'est vrai que souvent on les qualifie d'ancestrales parce qu'elles sont très très anciennes. Et elles vont au-delà des simples aspects diplomatiques et économiques qu'on pourrait croire, mais elles constituent vraiment un modèle de coopération sud-sud. Au total, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'accords en fait entre le Maroc et le Sénégal. Et ces centaines d'accords, ils couvrent plus d'une dizaine de secteurs clés. L'agroalimentaire est un levier très très important de développement entre le Maroc et le Sénégal. À titre d'exemple, si je vais en citer un. Je citerai le fait que les producteurs sénégalais de fruits et légumes, ils perdent aujourd'hui près de 70% de leur production. Ceci, c'est dû en fait à quoi? C'est dû à une mauvaise conservation. C'est là que ça révèle un potentiel important pour le savoir-faire marocain en termes de transformation de produits et de logistique. Je pense très sincèrement que l'expertise du Maroc dans le domaine de l'agribusiness, elle ouvre de très belles perspectives de collaboration avec son pays frère qui est le Sénégal.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes médias, podcasts, ainsi que sur les plateformes de podcasts habituelles. Bonne suite de programmes sur Médias et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.